underdog. I'm just a side effect of following my thumbs through the fog. I'm out of here, all apologies to your kids. Your whole forest on fire, hollering about the bridge. And everybody trying to do their best, but everybody's best didn't take the same piss test. I guess I should expect resentment affects perspective and context. And you've perfected your bomb threats. Yeah, we get high and we gon' die, but either way, those leaves don't lie. And as the seasons go by, more friends say bye. Less luggage makes it easier to fly. And when the trees turn to skeletons, listen, you can hear the bones rattle in the wind. It's a delicate condition. Everything's gotta go if you wanna know what's underneath the skin. We all have the capacity to take it there, but if I'm gonna use gravity to take it there, that's a delicate condition. I'm not in the position to tell you how you live it. And when the trees turn to skeletons, listen, you can hear the bones rattle in the wind. It's a delicate condition. Everything's gotta go if you wanna know what's underneath the skin. We all have the capacity to take it there, but if I'm gonna use gravity to take it there, that's a delicate condition. I'm not in the position to tell you how you live it. And when the trees turn to skeletons, you can hear the bones rattle in the wind. It's a delicate condition.
Il est 7h à Paris et Madrid, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
RFI Matin commence, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session d'infos tout autour du monde et au plus près des incendies qui ravagent en ce moment le sud-ouest de la France, la région de la capitale espagnole, mais aussi le Portugal, et la crainte ce matin d'une nouvelle vague de chaleur qui se dessine. Les heures qui viennent sont cruciales. On en parle ce matin. Bonjour Fabrice Le Grier.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Des milliers de pompiers mènent toujours une lutte acharnée contre les flammes ce matin.
Et vous le disiez, on redoute le pire pour les prochaines heures, puisque de nouvelles vagues de très fortes chaleurs sont attendues. De quoi aggraver encore la situation, alors que des dizaines de milliers d'hectares sont déjà partis en fumée et que des centaines de milliers de personnes ont dû fuir et se réfugier chez des proches ou sont prises en charge dans des centres dédiés, comme à Bordeaux notamment. Témoignage dans un instant.
La rencontre Donald Trump, Benjamin Netanyahu aujourd'hui à Washington.
Et les discussions porteront notamment sur la très difficile mise en œuvre de l'accord cadre conclu entre Israël et le Liban. Accord qui prévoit le déploiement de l'armée libanaise dans des zones pilotes du sud du Liban, où l'État hébreu mène pourtant toujours des opérations.
Le Tchad se retire de la Cour pénale internationale.
L'annonce a été faite hier, évoquant une efficacité limitée et à géométrie variable de la CPI. Nous écouterons le ministre tchadien des Affaires étrangères.
Et puis cette nomination, Fabrice attendu à la tête de l'équipe de France de football.
C'est un secret de polichinelle. Zinedine Zidane devrait être officiellement nommé sélectionneur des Bleus ce matin.
Une bonne partie de l'Europe toujours en proie à de gigantesques incendies ce matin.
Et cela risque de ne pas s'arranger, au contraire, dans les heures qui viennent, puisque de nouvelles vagues de très fortes chaleurs sont attendues. C'est le cas en Espagne, en alerte extrême, alors que le pays subit déjà les pires feux de forêt de son histoire. Deux énormes incendies sont en train de se rejoindre. Le gigantesque brasier qui sévit autour de Madrid et celui de la région voisine d'Avila. Des feux qui, à eux deux, ont déjà parcouru près de 75 000 hectares, 7 fois la superficie de Paris. Le Premier ministre Pedro Sanchez a prévenu que les prochaines heures seraient difficiles. Inquiétude aussi au Portugal avec des incendies dans le nord et le centre du pays. Et puis en France, en Gironde, le feu est stabilisé mais toujours pas fixé. Et là aussi, la nouvelle vague de chaleur fait craindre le pire. Le bilan est déjà effroyable. 42 000 hectares dévastés, 88 pompiers blessés, 240 habitations détruites et 220 000 personnes évacuées. Beaucoup ont pu être relogés chez des proches, mais d'autres restent sans solution, réfugiés dans le parc des expositions de Bordeaux. Ils sont 1 000 000 à dormir sur des lits de camp et à bénéficier des nombreux dons. Ils vivent ce moment comme une prise de conscience de l'accélération du réchauffement climatique. Nicolas Roca.
Ils sont plus de 1 000 entassés sur des lits de camp tenus éveillés par la lumière des néons alors qu'autour d'eux s'affairent des bénévoles. Certains jouent aux cartes ou lisent un livre pour passer le temps. C'est le cas de Marguerite, 77 ans. Elle a dû quitter son logement à la hâte.
Donc pendant quasiment 3 décennies, la forêt des Landes n'a pas connu de drame. Et maintenant, année après année, la forêt brûle.
La retraitée dénonce la mauvaise gestion de la forêt de pins très inflammable autour de Bordeaux, mais pas uniquement.
Je veux dire, c'est tout un écosystème humain qui est à considérer et à remettre en cause, si on veut le remettre en cause. Mais je crois que là-dessus, c'est un vœu pieux.
Un vœu pieux partagé par sa voisine Mona Cadet.
On voit très bien que les effets climatiques, on les subit de plus en plus. On a l'impression que c'est seulement maintenant que les gouvernements successifs commence à prendre en compte l'ampleur des dégâts.
Une situation dramatique, mais surtout un appel à l'action pour Cyril.
Moi, je me dis qu'il va peut-être falloir se remettre en question et reconsidérer la nature pour essayer d'améliorer les choses. Arrêter la pollution, arrêter beaucoup de choses.
En 20 ans de mesure, jamais le ministère de l'Intérieur n'avait recensé des incendies aussi dévastateurs qu'en cette année 2026. Nicolas Roca, Bordeaux, RFI.
Dans les Landes, l'incendie près de Biscarrosse est désormais fixé. Les flammes ont détruit 3 600 hectares. Et dans le Var, 1 000 000 de pompiers sont toujours mobilisés face au feu près de Pont-Évès. Les reprises ont toutefois pu être circonscrites. Une crise qui bouleverse l'agenda estival de l'exécutif français. Pour l'instant, président et chef du gouvernement restent à Paris, tout comme un certain nombre de ministres. Emmanuel Macron, qui s'est rendu à Bordeaux hier, l'a dit. Il faut rester unis, Raphaël Delvolvé.
Ne pas montrer le moindre signe de relâche.
On lâche rien.
Hier à Bordeaux, où Emmanuel Macron est venu soutenir les pompiers, il n'était plus question dans l'immédiat d'aller prendre ensuite ses quartiers au fort de Brégançon.
On soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
Face à une situation aussi inédite que grave, et au moment où une 4e vague de chaleur touche la France, le président doit rester à Paris où les réunions vont s'enchaîner encore ce mardi. Le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, lui, navigue à vue, fait évoluer son agenda d'heure en heure quand le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez prévient.
On s'attend évidemment à ce que le reste de la saison soit très compliqué.
Pas de vacances à ce stade pour le premier flic de France, comme pour d'autres ministres qui ont pour consigne de ne pas trop s'éloigner, voire de rester mobilisés encore cette semaine, notamment pour ceux de l'environnement, de l'économie ou du commerce. Emmanuel Macron hier à Bordeaux.
Et donc les ministres et sous l'autorité du Premier ministre reviendront là dès que les conditions le permettront pour venir faire le suivi de tout ça et aider aussi à résister, à restabiliser et puis à reconstruire et à apporter les réponses structurelles.
Ou comment s'afficher actif et pas en congé, mais aussi ne pas laisser le champ libre aux critiques de l'opposition.
Et retrouvez un dossier complet sur ces incendies qui sévissent en Europe sur notre site rfi.fr.
Benjamin Netanyahu reçu par Donald Trump à la Maison Blanche aujourd'hui.
Premier entretien physique entre le président américain et le premier ministre israélien depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Au menu des discussions, la guerre en Iran, mais aussi la mise en œuvre de l'accord conclu entre Israël et le Liban, dont l'application reste très difficile. Ces dernières heures, Beyrouth a condamné la poursuite des opérations militaires israéliennes dans les zones pilotes dans le sud du Liban. En recevant hier le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, le président libanais Joseph Aoun a condamné les démolition continue de maisons et de villages par Israël. Paul Ralifé.
Joseph Aoun a estimé que le dynamitage de maisons et la destruction de villages dans le sud du Liban risquent de compromettre l'application de l'accord cadre conclu il y a un mois avec Israël sous l'égide des États-Unis. Le chef de l'État a dénoncé, je cite, une violation directe des droits humains et une atteinte manifeste aux lois et aux normes internationales. La position de Joseph Aoun rejoint celle de l'armée libanaise qui a condamné dimanche la poursuite des tirs et des destructions par les troupes israéliennes. L'armée a estimé que ces violations l'empêchent de mener à bien son déploiement dans les zones pilotes qu'elle est censée contrôler. Les troupes israéliennes ont intensifié ces derniers jours la destruction aux explosifs et aux bulldozers de maisons, de stations de pompage d'eau et de bâtiments publics et privés dans des localités du sud Liban. L'armée israélienne a également multiplié les tirs d'artillerie et les ratissages à la mitrailleuse lourde dans des régions situées à l'extérieur de la zone tampon de facto établie dans le sud Liban. Quelques 400 000 habitants d'une soixantaine de villes et villages de cette bande de 600 km² ne sont toujours pas autorisés à rentrer chez eux. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et concernant la guerre entre les États-Unis et l'Iran, pas de reprise des hostilités cette nuit. Chacun campe sur ses positions. Téhéran assure ne pas chercher à reprendre les négociations avec les États-Unis. De son côté, Donald Trump fait état de bonnes discussions avec les Iraniens.
Au Tchad, cette annonce du gouvernement hier, le pays décide de sortir de la Cour pénale internationale.
Cette décision est l'aboutissement d'un examen approfondi du fonctionnement de la CPI depuis son entrée en vigueur en 2002, estimant que son efficacité est restée limitée et à géométrie variable. Cette cour est chargée de poursuivre les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'agression. L'État tchadien affirme que les juridictions nationales et les mécanismes africains disposent de capacités suffisantes pour remplir cette mission dans la dignité et souligne que ce retrait ne constitue pas un renoncement à la justice pour les victimes. Abdoulaye Sabre Fadoul est le ministre tchadien des Affaires étrangères.
Face à ces dérives qui se manifestent par des poursuites, je dirais, sélectives, et ce sont les propres statistiques de la Cour pénale qui les démontrent, face à un jet de puissance qui protège certains et qui met seulement comme cible les Africains, le Tchad ne se sentait plus en phase avec la Cour pénale internationale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et donc, je dirais avec beaucoup de regret que cette décision a été prise. Nous ne devons plus accepter d'être les victimes consentantes d'un système qui est à double vitesse. Le Tchad continuera de respecter ses engagements qui découlent d'autres instruments internationaux. Nous avons collaboré systématiquement dans toutes les enquêtes qui sont menées par la CPI, que ce soit en RCA ou bien au Soudan. Et il est dommage que par certaines pratiques, les États sont poussés à quitter la CPI et le Tchad, comme vous le savez, n'est pas le premier à partir et ne sera certainement pas le dernier.
Propos recueillis par Olivier Monodji, ce retrait du Tchad de la CPI sera effectif dans un an. Il s'ajoute à celui du Niger, du Mali et du Burkina Faso.
Les frères ennemis brésiliens et argentins sont toujours au bord de la rupture.
Et le ton est encore monté d'un cran hier lorsque le ministre brésilien des Finances a traité le président argentin Javier Milei de clown. Nouvel épisode qui se rajoute aux insultes proférées par Milei à l'égard de Lula. C'était samedi lorsqu'il est venu apporter son soutien au candidat de l'opposition Flavio Bolsonaro pour la présidentielle d'octobre au Brésil. En fait, Martin Bernard, le gouvernement brésilien se méfie des ingérences extérieures à moins de 3 mois du scrutin.
Exactement. Lula a une nouvelle fois brandi la carte de la souveraineté comme il l'avait fait face à Donald Trump qui vient d'infliger des droits de douane punitifs au Brésil et qui avait ouvertement soutenu Jair Bolsonaro dans le passé. Lula a rappelé qu'aucun étranger ne pourrait se mêler des élections brésiliennes, un message qui passe bien auprès des électeurs selon le politologue Claudio Cotto.
D'un point de vue électoral, pour lui, c'est tout bon, car cela lui permet d'en cueillir les lauriers. Il apparaît comme le président qui défend la souveraineté du pays contre l'intromission de qui que ce soit, qu'il s'agisse du président américain dans le cas d'une superpuissance ou d'un président argentin mal élevé qui vient au Brésil.
Le Brésil vient d'ailleurs de refuser des visas à deux responsables américains soupçonnés de vouloir venir au Brésil pour mettre en doute le bon fonctionnement des urnes électroniques et la transparence des élections. La querelle diplomatique a encore pris une nouvelle dimension lorsque Lula a obtenu le soutien de Xi Jinping en faveur précisément de la défense de la souveraineté et contre les ingérences extérieures. Un message très clair selon Claudio Cotto.
Si vous, les Américains, venez chercher des noix au Brésil, on a d'autres alternatives et on va aller de l'avant. D'où l'importance de cette conversation avec Xi Jinping et plus encore la révélation des termes de cette conversation.
La Chine, qui tient de son côté, a conservé ses relations privilégiées avec le Brésil. Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Enfin, Fabrice, c'est le jour J pour Zinedine Zidane.
Oui, sauf énorme surprise de dernière minute, il va être nommé sélectionneur de l'équipe de France de football en lieu et place de Didier Deschamps, qui aura passé 14 ans à la tête des Bleus. L'officialisation est prévue à 9h TU lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération Française de Football. Et ce 10 jours à peine après la fin de la Coupe du Monde qui reste dans toutes les têtes. Esteban Miralles.
Falling to the ground, red leaves raining in my brain. Feeling the scars from the last round. Old memories keep singing my pain. In a beam of light, you came and warmed my soul. A little bit all your love to be saved. Sweet scent of pleasure, please answer my call. Let's bring joy, babe, in our bed. Smile in the morning, a kiss in the evening. Time to feel love coming. Carry your heart. Smile in the morning, a kiss in the evening. Time to feel love coming. Men fighting all day long. Guns are talking, heart don't speak. Outside madness is getting strong. We're losing pride on screens for the same. Like a comet you came and took me to a place where I no longer have to struggle with the past. Breeze of happiness, touched by your grace. Live this moment, babe, like it will be the last. Smile in the morning, a kiss in the evening. Time to feel love coming. Carry your heart. Smile in the morning.
Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
D'un feu dont je garde des braises fumantes au creux de ma gorge, de ma langue, de mes yeux. À ce pays de sable, je n'ai jamais dit adieu. On m'a porté à bout de bras jusqu'ici, dans la poussière d'un septembre après-midi, dans des langes dépliées par le bruit, dans l'espoir d'entrevoir un peu la vie. Ça ne s'oublie pas un être humain qui n'a plus rien et qui s'arrache pour mettre à table un bout de pain. C'est comme la peur du noir dans une chambre sans fenêtre. C'est comme les mots rares d'un analphabète. Et puis j'ai grandi en apprenant, des noms de géants, Pharaon, Fanon, Kateb, Yassine. Comme le trésor de guerre à la fin du film. D'un bout à l'autre de ma trajectoire, L'Algérie s'évade et revient me voir. Tout comme je verrai jusqu'à l'ultime soir le pas de mon père et ses mains noires.
Les mains noires, ce sont celles de ma mère, de beaucoup de mes héros, de certains de mes alliés. Quand je quitte ma terre, celles de ma grand-mère, qui me font des adieux du haut de son palier. Les mains d'Aimé Césaire qui m'ont hypnotisé quand elles ont saisi la plume et l'encrier. Et puis m'ont rendu la dignité avec le retour au pays natal de son cahier. Les mains de Martin.